Groupe de louanges. On a entendu parler de quelqu'un d'extrêmement important ce matin. À votre avis, À votre avis, qui est le personnage le plus influent de notre temps? Vous savez, j'ai vu une annonce l'autre jour, c'est marqué « Google répond à toutes les questions ». Fait que je me suis dit à moi-même, ici, dans la salle, probablement vous dites en vous-même, c'est Jésus. C'est le christianisme, tout ce qu'il a fait. Fait que je type ça, personnage le plus important. Le premier qui a sorti, c'est Poutine. Oui, les Russes, là, c'est important. Ça a l'air que c'est lui qui mène à quelque part, là, si vous écoutez les nouvelles. Là. Je rassaye, c'est plus important. Le prophète Mohamed. D'un coup, je vois quelque chose. Le gars, il dit, il a fait une présentation des 10 hommes les plus importants de tous les siècles. Alors, il dit sûrement Jésus dans le tour. Fait que je m'en vais là. Cher Jésus. L'apôtre Paul était le troisième. Jésus n'était pas là. Jésus, il arrive sixième. Puis, pour nous, Jésus, c'est Dieu, c'est important. J'ai réalisé jusqu'à quel point les gens ignorent Jésus. Et c'est sûr qu'une liste comme ça, ça se fait avec des critères. Là, les autres, c'est... Ils ont pris des critères, puis ils ont dit, pour rentrer dans notre liste, il faut ça. Et à quelque part, je me suis dit, nous, comme chrétiens, si on ferait notre liste, probablement qu'on mettrait Jésus en premier, peut-être Moïse en deuxième, ou Abraham, puis on ferait notre liste à notre manière. Mais ce que j'ai découvert encore plus, c'est que d'un milieu chrétien, dans ce temps-ci, dans la sphère théologique, on ne parle pas souvent de Jésus. On parle de prédestination, on parle de l'autorité et l'inspiration des Écritures, c'est toutes des affaires qui sont importantes à discuter. On parle des manuscrits qui sont réels et pas réels, des familles de manuscrits, lesquels qui sont les plus fiables ou moins fiables, c'est bon. On parle du ministère de la femme dans l'Église, beaucoup. On parle de la manière d'évangéliser. On parle beaucoup comment faire croître l'Église avec des stratégies. Puis, à ma surprise, on ne parle pas tant que ça de Jésus. C'est dur à croire, hein? C'est comme pour acquis que Jésus, il est Dieu, il est tout. Et puis, on le sait, mais on n'en parle plus. Pourtant, notre bonne nouvelle, l'Évangile, est basée non pas sur la théologie que les hommes ont écrite au travers des siècles, mais l'Évangile est basé sur une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, Engelios. La bonne nouvelle que Dieu nous donne à nous, l'humanité, qui est venue régler notre problème, c'est Jésus. Puis, j'ai envie de vous parler de Jésus un matin. Là, tout le monde va dire, « Ben, Michel, voyons donc. Penses-tu que Jésus, on ne le connaît pas? Penses-tu qu'on ne le sait pas, qu'il est le sauveur du monde, Jésus? Voyons donc, pourquoi parler de Jésus? » Je ne sais pas. J'ai eu à cœur, j'avais un autre message, puis cette semaine, puis en priant, je voulais parler qu'il y a sept sortes de pharisiens. Là je vous aurais tout bien dessiné, là. Le chapeau nous fait tous. Mais, tu sais, on est appelé à prêcher, puis on dirait c'est tout, c'est le négatif. Avoir remarqué? Ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas. Peigne-toi sur le côté gauche, peigne-toi sur le côté droit. Un matin, j'avais mis un habit avec une cravate. Il dit, Michel, pourquoi tu fais ça? Ben, je m'en allais en avant. Je m'en scandalisé ceux qui veulent voir des cravates. Ah ouais? Puis, pourquoi le problème, c'est pas l'autre bord? Il fait chaud, c'est l'été. J'ai une paire de culottes blanches chez nous, c'est celle-là. Je ne la mets jamais. La première fois que j'ai acheté ça, c'est quand j'étais enseigné au 375e. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais enseigné sur Jean 3,16, dans la tente. Là. Ça se fait. Puis les autres pasteurs m'avaient averti, ils disent « Arrive pas ici avec un habit et une cravate. » Pas des faces. Bon, ça ne me dérange pas. S'il faut que je mette des gants rouges, je vais aller prêcher. Moi, y aller. S'il faut que je monte la scène à genoux, moi, y aller. Ça ne me dérange pas, pas tout. Ouais. Non, il dit. C'est parce qu'il dit là, il dit, ce monde-là, ils ne connaissent pas Jésus. Puis il dit, tu vas projeter une image de la religion installée, répétée, où les institutions religieuses de notre époque, ils sentent toutes pas bon. Puis il dit, si nous autres, tous les pasteurs, on est habillés bien comme ça, ils vont voir qu'on est du monde comme les autres. Qu'on n'est pas les clergés, les clergés qui mènent tout. Puis eux autres, c'est juste les petits laïcs qui se font mener. Puis dans le fond, quand tu regardes la personne la plus remarquable de tous les temps, le plus grand meneur d'hommes, le plus grand enseignant, celui qui a fait le plus de bien à l'humanité, c'est lui qui a vécu la vie la plus sainte. Pour moi, c'est Jésus le premier. À cause de ces critères-là. Mais je vais aller plus loin, parce que ce n'est pas ce que moi je pense qui est vraiment important, c'est ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? La parole dit, et tournez dans Hébreu, ceux qui ont le Bible, s'il vous plaît, Hébreu chapitre 1, on va prendre 3 versets rapidement, et on va s'en aller avec ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Hébreu 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé en le Fils. Ceux qui ont 1910, ceux qui ont des 1910-034, là, c'est marqué par le Fils. Mais ça a été corrigé, ça. Il nous a parlé en le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 8, ça c'est Dieu qui parle, Hébreux 1, 8. « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Dieu qui parle à Dieu. Ô Dieu, ton Dieu. C'est-tu beau, ça? Dans l'original, c'est très, très clair avec les articles. Théos ton Théou. Il n'y a pas de personne qui astine ça. À moins que tu mettes un petit dé et tu ne saches pas trop ce que tu dis. Tu vas tordre les Écritures. Mais parler de Jésus, frères et sœurs, c'est la chose la plus importante qu'on peut mettre sur la table quand quelqu'un vient nous visiter. Jésus. J'aimerais qu'on soit connus à l'Assemblée du Cap comme des bizarres de Jésus. The Jesus Freak des années 2015. Non, laissez-vous pas pousser les cheveux, mettez-vous pas des sandales, puis allez pas faire du surf. Les années 70, aux États-Unis, c'est ce qui est arrivé à Californie. The Jesus Freak. Puis de ce mouvement-là est sorti des hommes de Dieu extraordinaires. Mais comprenez-vous, c'est à quelque part Jésus, même si je parle à une audience convaincue que Jésus, ce n'est pas un bon gars, un bon prophète, un gars qui a fait du bien. Gandhi a fait beaucoup de bien. Mère Teresa a fait beaucoup de bien. Et Wilberforce a fait beaucoup de bien en Angleterre quand il a combattu pour combattre l'esclavage. C'est plein de gens sur la planète Terre qui font beaucoup de bien. Mais on n'est pas dans la même catégorie, là. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'un gars qui a fait beaucoup de bien. On parle de quelqu'un qui est venu sur la planète Terre, qui ne tirait pas son existence de la planète Terre. Il s'est incarné dans la Vierge Marie, il a marché sur cette terre, il a monté sur la croix vers l'entrée de notre ère. Il a crié « Tout est accompli ». Il est mort, 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, la mort n'a pas pu le retenir. Puis aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, puis il est encore vivant. On parle-tu d'un bon gars, là? D'un bon messager? D'un bon exemple? Et l'Épître aux Hébreux, je pense, dans 3 versets, là, on a vraiment là, ce qu'on pourrait dire, là, tous les sujets, ou presque, parce que je le fais comme l'abbé, là, dire « ou presque ». Il y en a d'autres, là, Colossiens 1, il y en a tellement, là, mais Hébreux, c'est condensé. On dirait que toute l'Épître aux Hébreux est résumée dans 3 versets. Et j'aimerais, ce matin, ensemble, qu'on puisse réaliser cela. C'est de connaître Jésus n'est pas une affaire d'une demi-seconde. La révélation progressive de Dieu. Dans Hébreux, là, autrefois, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. De toutes sortes de manières. Puis nous, on peut lire l'Ancien Testament, puis on peut voir cela. Mais on peut voir aussi une progressivité. Ça progresse la révélation de Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 4, Caïn créa le monde moderne. Et là, Dieu se révèle tranquillement au patriarche. La révélation de Jésus, c'est progressive. Quand on vient au Seigneur, on réalise beaucoup de choses à propos de Jésus. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Qu'est-ce que Jésus aime le plus? Qu'est-ce que Jésus haït le plus? Qu'est-ce que votre femme aime le plus? Qu'est-ce que votre femme haït le plus? Connaissez-vous votre femme? Quand vous faites plaisir à votre épouse, qu'est-ce que vous faites? La connaissez-vous assez pour lui faire plaisir? Et vice-versa pour faire plaisir à l'homme? Pourtant, vous êtes mariés. Vous avez dit oui devant tout le monde. Voyez-vous, connaître Jésus n'est pas connaître intellectuellement les lettres qu'appelle Jésus avec une notion qu'on préfère. Et cette révélation est progressive. Jésus, la première prophétie concernant le Messie de l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la postérité de la femme enfantera quoi? Un fils. Puis écrasera la tête du serpent. Première prophétie. Et progressivement, Dieu se révèle avec les 10 commandements. Dieu se révèle avec l'alliance d'Abraham. Dieu se révèle dans l'Ancien Testament en envoyant des prophètes et des prophétesses parler au peuple, parler aux hommes du cœur de Dieu. Et progressivement, Dieu se révèle. Et l'apogée de cette révélation, ce n'est pas un système théologique. Ce n'est pas des sujets qu'il faut savoir par cœur. Et l'apogée de la révélation du Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. À mon contact hier, j'avais arrêté d'aller à McDonald's, là, puis c'est 2 fois que j'y vais, puis mon contact est toujours là. Mon contact est toujours là. Savez-vous? Il est aussi angoissé de la mort. Il est aussi perdu. Il y a un qui son cellier qui est plein et qui est content. À part de ça, tout va mal. Puis à quelque part, j'ai dit avant de partir, ça fait longtemps que j'essaie de parler de Jésus avec lui, il veut parler de n'importe quoi, les scandales des curés, il veut parler de les religions évangéliques, il connaît du monde dans l'Assemblée, il veut parler d'eux autres. Le frère de Romeo Johnston était assis avec lui l'autre jour. Là, tu arrives dans ça, là, ils veulent parler de n'importe quoi. Essaye de parler de Jésus depuis je ne sais pas combien de temps. Puis ça a été rare les fois que j'ai pu vraiment en parler. Comment se fait ça? Hein? Tu y vas toi aussi avec tes... Comment se fait ça? Le monde ne veut pas entendre parler de Jésus. Puis Jésus, avant de partir, là, j'étais comme tanné, là, tu sais, après 3 ans. Là, là il dit, écoute bien, là, je te le dis encore, là, les religions, là, jette ça aux poubelles, puis prends le personnage Jésus-Christ au sérieux. Point final. La religion évangélique, jette-la aux poubelles, la religion évangélique, si ils ont mis dehors le Seigneur Jésus, si on étudie les églises d'Apocalypse, vous allez voir que ça arrive. Et puis, à quelque part, il faut savoir que la première chose qu'Hébreu nous enseigne, c'est que c'est une révélation progressive, et ce n'est pas par comme un messager vient de la part de Dieu, mais c'est en Jésus-Christ. C'est là l'importance de la correction de la traduction, de 1910. C'est par le personnage Jésus-Christ qui est vrai, 100% homme, 100% Dieu, Dieu se révèle complètement. Puis pensez-vous qu'on peut... Écoute, on a de la misère à connaître nos femmes après 40 ans de mariage. Pensez-vous que vous pouvez connaître Dieu vite demain? Parce que vous avez lu Jésus. Connaître Jésus. Connaître Dieu. Et c'est cela qu'Hébreu veut nous dire ici. Regardez bien. La première chose qu'il va nous dire, là, réfléchissons à ça, là. Il est héritier de toutes choses. Ça veut dire ça, physique, matériel, invisible. Le monde visible et invisible, Dieu, c'est à lui. C'est à lui. Toutes les paniques, là, avoue ça, la Grèce, hein, le monde faisait pitié. Là. Le gars, il a lâché sa pension, il était assis sur le trottoir, puis ils peuvent retirer 60 piastres par jour de la banque. Aucune perspective. En dehors de la Grèce, en dehors de la banque, en dehors de l'argent, il n'y a plus rien. C'est le désespoir. Mais nous autres, on sait plus. Héritier de toute chose, c'est lui qui est le possesseur, c'est lui qui a créé pour lui, par lui, pour sa gloire, toute chose. Puis toute chose sert à quelque chose. Même le méchant, Dieu l'a créé, ça sert à quelque chose. Même un tas de fumier, c'est important. Savez-vous pourquoi? Parce que les oiseaux, ils ont mangé des petits vers dedans. Ça nourrit les petits oiseaux. Même les ennemis, même les calomniateurs, ceux qui font de la médisance, Dieu permet que ça existe. Il est l'héritier de toutes choses. Le système tricoté par les hommes, sans Dieu, un jour, le propriétaire de la planète Terre va arriver et il va fermer la boutique. Parce que c'est lui le propriétaire. Et c'est important de réaliser que la première chose qui nous est dit ici, que le Fils est établi, « Ô Dieu, ton Dieu, hein, t'as oint d'un huile, tu es celui qui est le premier. » Prototokos, en passant. Ça, c'est important. Il y a prototikos, mais prototokos. C'est là qu'il est mêlé. Le premier-né, il y en a qui va dire, « Ah, vois-tu, il est né Jésus, c'est pas un homme. Ah, c'est pas un Dieu, c'est un homme. » Mais dans le texte, c'est pas ça qui est marqué. Prototokos, ça veut dire le premier en importance. Et c'est la même chose pour Israël. Jacob, le premier en importance. C'est la même chose pour David, qui était le cadet, qui était le premier en importance. Il est le premier-né, David. Mais pas biologiquement, dans le sens d'importance. Hébreux 12, 23. L'assemblée des premiers-nés. Ça veut-tu dire que l'assemblée, c'est toutes des premiers-nés? Biologiquement? Ben non, ça veut dire l'importance de l'assemblée des premiers-nés. Vous êtes important? L'assemblée des premiers-nés. Alors, il est très important de savoir cela. Et il a aussi créé toutes choses. Et je l'ai mis à part parce que, à quelque part, je pensais aux paroles de Job qui dit, « Ne recevons-nous pas le bien et le mal de Dieu? » C'est-à-dire, Dieu permet qu'on souffre. Puis si on ne souffre jamais, c'est pas normal. Mais on ne veut tellement pas la souffrance. Premier Pierre va nous dire, vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Souffrons pour Dieu. Parce qu'il a créé l'univers. Et je vois dans ma tête, là, Hubble, là, puis toutes des belles photos, là, puis je me dis, quand Dieu a fait tout ça, là, la grandeur de Dieu, ça répond à toutes les questions scientifiques pour moi. Hébreux 11, 3 en parle aussi, hein? Dieu a créé toutes choses, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Voyez-vous, même s'il découvre demain matin là, un atome qui répond à telle question, pour moi, même l'atome, le pluton, le neutron, et tout ce que vous voulez, les particules, Dieu a créé tout ça. L'ADN, que je dis souvent, qui me semble émerveillé, voir ça, c'est merveilleux, 3,1 milliards d'informations dans le génome humain. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. La complexité du gazon, la nécrose, les semences qui poussent de la terre, mes tomates, j'ai une tomate grosse de même déjà. J'ai resté surpris, j'ai vu ça un matin. Vert, par exemple. Hein? Mais à vous penser qu'on tire notre pain de la terre? Saviez-vous que les Juifs du premier siècle, lorsqu'ils priaient, il y avait deux choses qu'ils remerciaient Dieu tous les jours? Ils remerciaient Dieu pour le pain qui sort de la terre. Puis les plus spirituels, ils remerciaient Dieu de ne pas être une femme. C'est assez intéressant. On va là, on a un autre sujet. Le reflet de sa personne, la gloire, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Là, oublions pas, là, c'est Dieu là, qui parle. Il parle de Dieu. Hein? Ô Dieu, ton Dieu. C'est pour ça que je l'ai mis 8 et 9. Pour vous réaliser que tous ces trois versets-là, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, voici, il est héritier de toutes choses. C'est lui le propriétaire. C'est lui qui est le reflet et l'empreinte de ma personne. C'est l'empreinte. Lorsque vous voyez l'empreinte de Jésus sur la terre, c'est Dieu qui marche. Lorsque vous voyez l'empreinte de Jésus dans votre cœur, qui vous fait prendre des décisions, qui nous fait prendre des décisions qui honorent Dieu, c'est Jésus qui a fait ça. C'est l'empreinte de Jésus dans ma vie qui change ma manière de penser, ma vision de ce monde, la lecture de ce monde, parce que Dieu dit que Jésus est supérieur aux anges, est supérieur à Moïse, est supérieur à l'Ancienne Alliance. Puis tout le monde ramasse des affaires dans l'Ancienne Alliance, puis ils veulent l'amener dans la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas pourquoi. Le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. Jésus, lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. On a essayé de le tuer une couple de fois pour ça. Hein? Quand Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, il est écrit, « Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. » Qui est qui? L'image du Dieu invisible. C'est-tu beau, ça? Voyez-vous, à quelque part, Jésus, c'est plus qu'un sujet de conversation qu'à ça donne. C'est le sujet de conversation. Cinquièmement, Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. On a parlé tout à l'heure, la création. Il soutient l'Église, que le séjour des morts n'en proviendront point contre elle. Il soutient ses promesses qu'un jour il revient et on prend le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On a parlé un matin de la montée. C'est-tu beau, ça? Il soutient ça. Vous savez, croire en Jésus puis savoir qui est Jésus, ça veut dire le jour qu'il va arriver puis qu'il va sonner la cloche, ou plutôt, nous autres, on pourrait dire souffler dans la trompette, mais qu'il dit, c'est fini la récréation, là. Moi, je viens fermer tout ça, là. Je soutenais ça avant, là. J'ai été patient, là. L'apostasie est arrivée sur la planète Terre, là. Puis le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu de plus en plus. Le rejet de la foi, même si on la connaît. C'est ça qu'on voit de plus en plus. Remarquez ça. Oh, je connais ça. Oh, je sais ça. Ah, oh, oui, ben oui. Le jour que l'apostasie va en, l'homme de l'impie va apparaître, et le plan de Dieu commence pour l'univers. Puis il arrive de quoi? C'est que Dieu, il soutient plus toute chose. Et c'est pour ça qu'il va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Parce que le premier cieux, première terre, vont quoi? Disparaître. Il ne soutient plus. Parce que la souillure du péché, fait en sorte que Dieu va recréer les cieux et la terre lorsque ce sera le temps de rendre compte. Quand on parle de Jésus qui est venu comme un agneau, un jour vient comme un lion. Il est venu comme celui qui venait annoncer la paix, un jour il va venir comme celui qui juge. Des fois, on a tendance à l'oublier. Le bon petit Jésus, hein? N'oublions pas le petit Jésus, là. Il a grandi. Il a monté sa croix. Il est ressuscité des morts. La sixième chose, c'est qu'il a fait la purification des péchés. Et ça, ça parle de tout l'Évangile, là. Quand on dit, là, on parlait de Jésus, là, je ne veux pas dire qu'il faut vous dire Jésus à toutes les trois phrases, là. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est lorsqu'on parle de Jésus, on parle de quoi? On parle, il a fait la purification des péchés. C'est-à-dire, le problème que j'avais, que nous avons, a été réglé. Il nous a rendus propices à Dieu. Il est une victime propitiatoire. C'est-à-dire, il est le sacrificateur souverain et il est la victime en même temps. Les deux en même temps. Et là, il présente devant le lieu très saint, céleste, le pardon de nos péchés. Je pourrais dire le problème, vrai problème qu'on a. Vous pensez que c'est un problème de ne pas être capable de payer la carte de crédit à la fin du mois? Cassez-vous pas la tête, il y a des problèmes bien plus que ça. C'est de mourir dans nos péchés. Ça, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'Hébreu va dire, il a fait la purification. C'est-à-dire qu'on peut se présenter devant Dieu et être propice aux yeux du Père parce qu'on est déclaré juste, parce que le Père nous voit au travers du sang de son Fils et couvert par le sang de l'agneau. L'avocat de la défense se lève puis dit, « Joe Blow m'a accepté. J'ai pardonné ses péchés. Sa place est auprès de Dieu. » C'est-tu beau, ça? Avez-vous une perspective éternelle de votre vie? Pas si c'est parce que j'ai pogné les 60 ans et plus, là. Mais quand j'étais jeune, je ne pensais pas à ça, ben. Ah non. On allait s'assassiner avec les Mormons, les Jéhovah, les ici, les ça. Ah, on pensait comment habiller les femmes, comment les coulerer, puis comment faire telle affaire. Puis ça, c'était bien important, là. Ah oui. Mais attends un peu, là. Qu'est-ce qui est vraiment important? Plus qu'on vieillit, plus qu'on arrive devant la fin d'un pèlerinage. Puis j'espère qu'on n'est pas comme quand on a commencé. Moi, il y a des affaires que j'ai données au Seigneur, que j'ai changé d'idée. Puis je suis content d'avoir changé d'idée parce que ma mère me disait souvent, il n'y a rien que les fous qui changent d'idée. Ça ressemble à ça des fois. Fait que imaginez-vous, là, comme Jean Lépine nous disait dimanche passé, 60 ans tournant rond. Mais c'est ça, parler de Jésus. L'Évangile, c'est la raison d'être de l'Église sur la planète Terre. On est là pour dire à mon monsieur là, qui a l'angoisse de la mort avec son cancer galopant, écoute, tes péchés, Jésus les a portés. Mais parler de Jésus, là, c'est difficile. Ils veulent parler de n'importe quoi, mais ils veulent parler de ça. C'est drôle. Et dernièrement, j'aimerais vous dire ici que Jésus est assis à la droite de Dieu, la majesté divine. Il est assis à la droite de Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire être assis à la droite dans la parole? Maurice en parlait un matin un peu, là. C'est la place de puissance. C'est la place de décision, d'autorité et de puissance. Et quand on a cette expression, « Ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie. Hein? » Puis quand il dit, là, « Tu as aimé hein, la justice, tu as haï le péché. Hein? » Le chrétien, il aime puis haï. Hein? Parce qu'on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on aime tout. Quand on est chrétien, on sait quoi haïr puis quoi pas haïr. Quand on est chrétien, on est supposé savoir ce qui est péché, ce qui n'est pas péché, par la grâce de Dieu. Puis on apprend par essai-erreur. Hein? Essai, manque mon coup. OK, Seigneur, tu m'aides à enseigner ça. Mais Matthieu 28, 18 va dire « Tout pouvoir m'a été donné. » Et là, ça nous ramène à la prière. Parce que le cœur n'est pas si réceptif que ça de Jésus. Ils ont soif d'une spiritualité, mais aussitôt, on dirait, c'est le mot Jésus, il bloque. comme une femme qui n'aime pas le hockey, puis son mari est toujours en train de regarder le hockey, elle est en train de parler avec une gang, puis le gars, il dit « OK ». La femme, rien qu'à entendre le mot « OK », elle n'écoute plus rien. Elle ne veut plus rien savoir. Tu sais, c'est un blocage. On appelle ça un blocage psychologique. Fait que, à quelque part, assis à la droite de Dieu, ça veut dire que Dieu a tout pouvoir. Et nous, l'Église, avons quoi? Rien. C'est lui qui l'a tout. Pètez-vous pas les bretelles parce que vous avez conduit quelqu'un au Seigneur. C'est le Seigneur qui a révélé, qui s'est révélé à cette personne-là. Culpabilisez-vous pas parce que la personne t'a essayé d'annoncer l'Évangile pendant 3 ans, ça a un poignet. Cassez-vous pas la tête, c'est parce que le Seigneur ne l'a pas visité. Tout simplement ça. Parce que n'oublions pas une chose. La job de l'Église, c'est pas de forcer le monde à accepter le Seigneur. La job de l'Église, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Fort et haut. Point final. Ta job est faite. T'as semé? Ta job est faite. J'aimerais qu'on termine avec une prière spéciale. Je vais demander à David de venir. Je vais demander à toute l'équipe, là. Vous savez, moi, je crois que Dieu nous voit quand on prie. Moi, dans ma prière, j'aimerais ça que le Seigneur puisse, par son esprit ce matin, mettre dans nos cœurs un amour tout à fait spécial pour sa personne, au point de l'aimer assez, de vouloir le connaître quotidiennement. Le connaître tout au long de notre vie. Connaître qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est quoi les priorités pour Jésus dans ma vie? De l'avoir sur le bout de la langue, peu importe qui qu'on rencontre. D'avoir peut-être juste un petit traité dans les poches, d'être prêt à partager le Seigneur. Être à l'Assemblée du Cap, là, un foyer spirituel qui sont attachés à Jésus puis qu'ils partagent quand le Seigneur ouvre la porte. Puis même quand on a cogné à la porte, on peut le faire aussi. Mais à quelque part, il faut partager le Seigneur avec respect et amour. Mais Jésus, que Jésus devienne le sujet de conversation prioritaire pour nous, à la gloire de Dieu. Vas-y, donc.